Ben, je dirais que c'est le privilège pour moi de pouvoir être ici ce matin. Merci beaucoup pour cette invitation, cette occasion que vous m'accordez de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin avec vous. C'est tout un privilège et puis c'est vraiment un privilège de pouvoir enseigner à travers les épîtres pastorales dans les différentes assemblées où j'ai été invité pour partager la parole de Dieu. Et vous savez, je crois vraiment que le Seigneur a le souci du détail. Il dirige vraiment toute chose dans les moindres détails. Et puis, j'ai débuté avec l'exposition de 1 Timothée, chapitre 1, verset 1, il y a maintenant une semaine. Et puis, je ne voulais pas tout couvrir le chapitre 1 au complet, mais seulement deux sections qui étaient vraiment liées l'une à l'autre, c'est-à-dire les versets 1 à 11 et les versets 18 à 20. Et donc, ça me laissait pour ici les versets 12 à 17. Et puis, en regardant de plus près ce passage, j'ai réalisé que c'était un texte qui mettait beaucoup l'accent sur l'Évangile. Et je sais que à Sonsbeau, on tient à ce qu'on parle de l'Évangile, n'est-ce pas? Et puis, ça, je me suis dit, ben ça, c'est le Seigneur qui dirige pour qu'on touche à ce sujet, l'Évangile, et particulièrement une vie transformée par l'Évangile. C'est la vie de l'apôtre Paul que nous allons regarder en trois étapes. La vie de Paul avant l'Évangile, la vie de Paul pendant l'Évangile, si je peux dire ainsi, et la vie de Paul après l'Évangile. De voir l'impact du message de l'Évangile dans la vie de cet apôtre, qui n'en était pas un. Il était plutôt un meurtrier, un persécuteur de l'Église, un homme violent tel qu'il le dit lui-même. Mais l'Évangile a changé sa vie, transformé sa vie en sorte qu'il est devenu, par la grâce de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. Alors, si vous voulez prendre vos Bibles et tourner avec moi dans 1 Timothée, chapitre 1, nous allons faire la lecture, premièrement de ces versets 12 à 17. Et ensuite, je prierai brièvement et puis nous entrerons dans le texte ensemble. Alors, je fais la lecture dans la traduction Darby. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui, auparavant, était un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montrasse toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Prions, frères et sœurs. Père, nous te louons et te bénissons pour ce beau passage. Merci pour le témoignage de Paul qui met en valeur ta grâce, ton salut et au cœur de tout cela, ton Fils. Voilà, c'est pourquoi, Seigneur, nous prions de parler à notre cœur, d'affermir notre foi dans l'Évangile, de nous rapprocher du Sauveur et Seigneur Jésus, afin que nos vies, Seigneur, soient transformées, réellement transformées par l'Évangile. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous savez, le contexte, il est super important. Ça fait partie des épîtres pastorales. Je crois qu'on appelle 1 Timothée, 2 Timothée et Tite les épîtres pastorales, c'est très général, hein, cette appellation, eh bien, on l'appelle ainsi parce que l'apôtre Paul, contrairement à ses autres épîtres où il s'adresse à des églises en général, eh bien, là maintenant, il s'adresse à des personnes qui ont à exercer un rôle pastoral dans l'Assemblée, en particulier à travers la prédication de la parole de Dieu. À travers la prédication fidèle des Écritures, le prédicateur exerce une œuvre pastorale, une œuvre à travers laquelle il peut nourrir les brebis du Seigneur. Il peut prendre soin d'elles. Il peut parfois même corriger certaines doctrines, peut-être, ou certains faux pas. Quoi qu'il en soit, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et à Tite un peu plus tard, dans le but de les encourager à bâtir leur ministère centré sur l'Évangile de Christ. Voilà pourquoi dans 1 Timothée, je crois qu'on pourrait donner comme thème général à toute l'Épître l'importance de la saine doctrine dans l'Assemblée, et au cœur de la saine doctrine, bien sûr, c'est le fondement même de la doctrine, le message de l'Évangile de Christ. Parce que l'apôtre Paul sait très bien que seul ce message change les vies, transforme les cœurs, amène et façonne les pécheurs pour qu'ils deviennent, en tant que saints, de plus en plus conformes à l'image de Christ. Voilà ce que Paul sait. Et dans le chapitre 1, il a parlé dans les versets 1 à 11, sans que nous les regardions maintenant, mais vous pourrez y jeter un coup d'œil plus tard. Il a parlé de l'importance de la doctrine dans l'Assemblée. C'est le message de l'Évangile, c'est le cœur même de l'enseignement. À la toute fin du verset 11, juste pour relier notre passage au contexte précédent, il a parlé de l'Évangile, de la gloire du Dieu bienheureux, qui m'a été confié. Wow! Il y a beaucoup de façons de présenter, de parler de l'Évangile dans la parole de Dieu elle-même. Parfois, c'est l'Évangile du royaume. Et parfois, c'est, comme ici, on le voit, l'Évangile du Dieu bienheureux. J'ai trouvé ça quand même particulier comme expression. L'Évangile du Dieu bienheureux. Et j'oserais dire que c'est pour nous rappeler probablement que le vrai, le véritable bonheur authentique ne se trouve qu'en Dieu seul. Oh, l'homme cherche partout. Mais c'est dans le message de l'Évangile qui nous parle d'un Dieu si bon, si gracieux, que nous allons découvrir le véritable bonheur. L'apôtre Paul lui-même a reçu un tel message. Il a rencontré Christ sur le chemin de Damas dans des circonstances dramatiques extraordinaires. Il a connu l'Évangile, mais non seulement il l'a connu, mais il a reçu une responsabilité particulière liée à l'Évangile, et c'est ce dont Paul parle dans ce verset 11 à la fin lorsqu'il parle de l'Évangile qui lui a été confié. Et là, je crois que Paul sent le poids de cette responsabilité. Phew! On m'a confié, c'est Dieu qui a fait ça, le message de l'Évangile, celui qui change des vies, celui contre lequel je m'étais pourtant battu, et que j'avais battu ceux qui le professaient, ce message, il m'a été confié. Je crois que quand Paul écrit ces mots, il devait ressentir tout le poids de cette immense responsabilité qui était aussi, bien sûr, un privilège extraordinaire, mais ces mots m'a été confié. Ça devait être un poids énorme pour lui. Mais il savait qu'il pouvait tirer sa force du Seigneur. Il savait qu'il n'était pas seul, que le Seigneur allait l'accompagner. Vous savez, je veux prendre le temps d'exposer ce passage en détail, d'aller au fond des choses, mais j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, déjà au départ, l'application évidente et claire pour chacun de nous. Bien que nous n'ayons pas le ministère de Paul, évidemment, bien que nous ne soyons pas apôtres appelés à proclamer l'Évangile comme lui l'a été, nous sommes en tant que témoins de Christ, privilégiés de pouvoir avoir la même responsabilité de proclamer le message. Et j'aimerais qu'on garde ça à l'esprit en cours de route, tout en regardant le contexte. Gardez cette application pour chacun de vous, pour y trouver de la force pour vous-même, pour prêcher le message de l'Évangile. Quelle grande responsabilité et quel grand privilège aussi. Donc, bien que l'on parle de Paul, parce que c'est le contexte, et bien qu'on parle d'un ministère unique dans l'histoire de l'Église, celui de l'apôtre de mettre le fondement à l'Église, nous avons le privilège de construire sur ce fondement en étant nous-mêmes appelés à être des témoins de l'Évangile de Christ. Donc, gardons à l'esprit cette application. Voilà, Paul ressent la responsabilité, mais tout de suite, il éclate en action de grâce. Il ne s'est pas écrasé sur cette responsabilité en disant, mais je ne peux pas, je suis indigne, je n'y arriverai pas, Seigneur. Non, il éclate en remerciement. Et comment débute le verset 12? Et je rends grâce. J'aime ce et qui n'est pas dans toutes les versions. Mais je crois que Darby a bien fait de l'introduire ici en s'appuyant sur les bons manuscrits qui mettent ce et, je crois. Eh bien, il fait un lien directement avec la responsabilité qui lui a été confiée. Cela m'a été confié, ça pourrait être un poids immense. Et je rends grâce à Dieu, parce que je ne suis pas tout seul pour le porter ce poids, pour accomplir cette responsabilité. C'est pourquoi il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié au Christ, notre Seigneur, au Christ Jésus. Il m'a fortifié. » Je trouve intéressant ce verset 12, tout de même, il vaut la peine d'y porter attention. « Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié. » Et on lit par la suite, « de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service. » J'ai l'impression parfois qu'on pourrait comprendre que Paul est en train de dire, « Le Seigneur m'a regardé, puis il a vu que j'étais fidèle, alors il s'est dit, « Bon, voilà, il est fidèle, alors je peux lui confier ce ministère. » Je crois qu'on peut comprendre cela en partie. Mais dans le contexte, dans non seulement le contexte immédiat, mais le contexte plus large de ce que Paul nous dit ailleurs, je crois qu'il est en train de dire que c'est le Seigneur qui l'a rendu fidèle. C'est lui qui l'a fortifié, qui lui a donné la force d'être fidèle. C'est par sa grâce, frères et sœurs, que nous sommes fidèles. Bien sûr que nous avons un rôle à jouer, une part à remplir. On doit prendre nos responsabilités. Nous devons nous consacrer au Seigneur, nous donner entièrement à lui. Je crois que Paul a fait cela aussi, mais je suis persuadé qu'il n'oublie pas, et c'est très bien, que s'il est fidèle, c'est parce qu'il en a reçu la force du Seigneur. On a tout ce qu'il faut, toujours. On ne peut pas dire, la fidélité, l'obéissance dans la vie chrétienne, c'est pas facile, hein? Je fais tous mes efforts, mais je n'y arrive pas trop. Je crois qu'on doit prendre conscience que la grâce du Seigneur nous donne la force, nous fortifie pour être fidèles dans notre service qu'il nous confie à chacun de nous, comme Paul le dit d'ailleurs aux Corinthiens, hein, vous avez tous reçu un don spirituel pour le service du corps qui est l'Église, le corps de Christ dont il est la tête. Mais lui va vous fortifier pour remplir, accomplir ce dont il vous appelle à faire dans son service. Il va vous fortifier, vous donner tout ce qu'il faut pour le réussir. Je crois que c'est ce que Paul est en train de dire. Le Seigneur, il m'a fortifié et je lui rends grâce. Il m'a jugé, estimé, fidèle à cause de cette force qu'il lui a donnée. Et donc, il l'a établi dans le ministère. C'est tout un sujet d'action de grâce. Écoutez, l'apôtre Paul ne serait pas là pour dire, « Ben, vous voyez, c'est parce que j'ai été fidèle. » C'est pas le point, hein, parce que ailleurs, Paul dit aussi, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? »
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? »
C'était loin de son esprit de se glorifier de sa fidélité ou son obéissance ou sa capacité.
Ça vient du Seigneur, il le sait.
Et franchement, c'est toute une application pour nous aussi. Le Seigneur peut nous rendre fidèles. Il nous fortifie pour cela. Il peut nous rendre obéissants. Il nous donne tous les outils nécessaires pour accomplir le service qu'il va nous confier. Et donc, malgré ce qu'on peut avoir été avant, comme Paul lui-même va le démontrer, le Seigneur a un appel pour chacun de nous et nous confie le privilège d'être des témoins de l'Évangile. J'aimerais qu'on regarde trois points maintenant. Ce sont des considérations d'introduction que je viens de présenter. Et à partir de ce verset 13, nous allons voir la vie de Paul avant d'avoir reçu l'Évangile, et c'est précisément dans le verset 13. Au verset 14 et 15, nous allons voir la vie de Paul lorsqu'il a reçu le message de l'Évangile. Et puis nous terminerons avec le verset 16 qui nous parle de la vie de Paul après avoir reçu l'Évangile. Et la conclusion se trouvera dans les versets 17 et 18. Premier point, la vie de Paul avant d'avoir reçu l'Évangile. Il a remercié le Seigneur premièrement parce qu'il lui a donné la force. Mais je remarque que l'apôtre Paul n'a jamais oublié d'où il venait. Il se sait pardonner, mais il n'a jamais oublié sa vie passée. Il dit que le Seigneur l'a fortifié, lui a donné cette fidélité, l'a établi dans le ministère, alors qu'il avait été, et là nous retournons dans le passé, dans sa vie avant l'Évangile, alors qu'il avait été, il nous dit trois choses. Et il le dit qu'il avait été premièrement ou autrefois, avant l'Évangile, blasphémateur, persécuteur et violent ou outrageux selon la traduction Darby. Blasphémateur, comment l'apôtre Paul, qui était un pharisien strict, obéissant à la loi, aurait pu être un blasphémateur? Tournez avec moi dans Actes 26. Je vais quand même vous amener à regarder quelques passages parallèles, quoique je préfère généralement m'en tenir à un seul texte. Mais c'est nécessaire pour mieux voir les changements dans la vie de Paul que nous allions faire quelques sauts ailleurs dans les Écritures. Et premièrement, pour cet aspect de blasphémateur, vous tournez avec moi dans Actes 26, verset 9. « Pour moi donc, j'ai pensé en moi-même qu'il fallait faire beaucoup contre le nom de Jésus, le Nazaréen. Ce que j'ai fait aussi dans Jérusalem, j'ai enfermé dans les prisons plusieurs des saints après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les faisait mourir, j'y donnais ma voix. » Et regardez la suite. « Et souvent, dans toutes les synagogues, en les punissant, je les contraignais de blasphémer. » Cet acte même d'agir contre le nom du Seigneur et de forcer des croyants à blasphémer le nom du Seigneur, Paul il dit, et c'est suffisant pour lui de dire, « J'étais blasphémateur. » C'est impressionnant. Blasphémer, dans les Écritures, signifie en particulier parler contre Dieu. Jésus, parler contre son nom, c'est le blasphémer, parce que Jésus est Dieu. Et donc, l'apôtre Paul avait été un blasphémateur. Il s'était attaqué à Jésus, et non seulement à Jésus, mais à ses disciples aussi. Mais il avait été aussi un persécuteur. Et puis là, je vais simplement rappeler les passages. Et vous savez, Paul, c'est certainement quelque chose qu'il avait toujours à l'esprit. Il se savait pardonné. J'en suis persuadé. Mais il avait tellement mal agi à l'égard de l'Église qu'il n'a jamais oublié qu'il avait persécuté l'Église. C'est un fait qu'il va rappeler à 6 reprises à travers ses écrits. « J'ai persécuté l'Église. » 6 fois. C'est très important dans son esprit. Ça l'a certainement gardé dans l'humilité. « Moi, j'ai persécuté l'Église. »
tout en se sachant pardonner. Nous trouvons cet aspect littéral où Paul en fait mention dans Acte 22, dans son témoignage, et encore dans Acte 26. Il parlera de ce fait dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, dans Philippiens 3 et dans Colossiens 1. Donc, j'y vais rapidement, mais voilà, simplement pour vous dire qu'il a jamais oublié ce fait. Il a persécuté l'Église. Et il était aussi un homme violent ou outrageux. Mais le sens du mot grec qui est là, hubristein, signifie littéralement vraiment violent, quelqu'un qui fait des actes et commet des actes de violence. Dans Galates 1, verset 14, Paul, il parle de sa position dans le judaïsme, où il était encore plus avancé que plusieurs de ceux de son âge dans sa nation, étant le plus ardent zélateur, le plus ardent zélé, si vous voulez, des traditions des pères, de ses pères. Il était très, très, très zélé, mais violent dans ce zèle incroyable. On le voit d'ailleurs dans Acte 8, 3, où il soutient, donne un geste d'autorité et d'appui en tenant les manteaux de ceux qui lapidaient Étienne. C'est un homme violent. Il était prêt à donner son accord pour la mort de quelqu'un par lapidation, tellement c'était un homme violent. Genre, lui, il peut pas être sauvé, c'est pas possible. Hein? C'est ça qu'on aurait pensé de Paul. J'ai été touché quand j'ai lu, de temps à autre, je me tiens informé de la persécution dans le monde et j'ai été touché des nouvelles qui sont venues de Gospel for India. Quand ceux qui étaient persécutés puis frappés à coups de bâton, ils disaient « Priez pour nous, mais ne priez pas pour que la persécution cesse, priez pour qu'on reste fidèle et qu'on puisse rendre témoignage. » Et des persécuteurs se sont convertis en Inde, encore aujourd'hui, comme l'apôtre Paul. Mais Paul, il se rappelle, mais il pourrait se décourager et peut-être même sombrer dans la dépression en réalisant, franchement, je suis un blasphémateur, j'ai blasphémé le Dieu que je professais servir. J'étais un persécuteur de son Église, j'étais un homme violent. Qu'adviendra-t-il de moi? Mais ce n'est pas ce que Paul fait. Il y a un « mais » dans le texte. Et moi, j'aime les « mais » dans le Nouveau Testament en particulier. Parce que le « mais » souligne un contraste qui est très, très, très fort. Revenons à 1 Timothée. Et puis, voici ce que nous lisons. J'étais un persécuteur, un outrageux, milieu du verset 13. « Mais miséricorde m'a été faite. » Miséricorde m'a été faite. Pourquoi? Il dit « Parce que, étant ignorant, j'ai agi dans l'incrédulité. » La traduction Darby formule une phrase plus complète en disant « J'ai agi dans l'ignorance » et on comprend « J'ai agi dans l'incrédulité. » Dans l'ignorance et l'incrédulité. Plus tard, quand l'apôtre Paul va s'adresser aux chrétiens de Rome, il va mentionner la même chose au sujet des Juifs en général dans le chapitre 10, verset 2, en disant « Ils ont du zèle pour Dieu, mais dans l'ignorance. » Ils sont dans l'ignorance. Et l'apôtre Paul dit que c'est ce qu'il était avant, dans l'ignorance. Oh, malgré le zèle religieux, ils ne connaissaient pas Dieu. Et attention, là, on parle d'une religion qui était essentiellement centrée sur le Dieu de la Bible. Le judaïsme. Et puis, il dit, dans mon zèle, dans cette religion-là, je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais ignorant. J'étais incrédule. Mais la miséricorde de Dieu m'a été faite. Ça, c'est Paul avant l'Évangile. Un homme blasphémateur, persécuteur, violent, ignorant, incrédule. C'est tout ce que Paul dit de lui avant l'Évangile. Mais il y a eu ce « mais » et il y a un autre « mais » encore. Et je crois que c'est dans le verset 14 au début qui est traduit par un « et » par Darby. Je crois que c'est plutôt par un « mais » qu'on devrait traduire cette conjonction. Quoi qu'il en soit, le contraste, il est évident de toute façon. Et la grâce Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. La grâce du Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour. Je me suis demandé exactement qu'est-ce qu'il voulait dire ici en disant la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Est-ce que c'est la foi et l'amour que nous avons à l'égard de Jésus? Est-ce la foi et l'amour qui est dans la personne même de Jésus et qu'il nous communique? C'est difficile à décider, mais pourquoi pas englober les deux? La foi et l'amour réel, authentique, que nous pouvons avoir en Jésus, vient de Jésus. Il est l'auteur de la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est en lui que est manifesté et révélé pleinement l'amour de Dieu. Et cette foi et cet amour, il la met dans nos cœurs lorsque nous nous convertissons à lui. Et donc, il y a une transformation, un changement incroyable que Paul peut exprimer en seulement 4 lettres dans ce petit mot « mais ». Quel contraste incroyable! Ça, c'est la vie de Paul lorsqu'il a reçu l'Évangile. Le Seigneur m'a sorti de mon incrédulité et de mon ignorance par le message de l'Évangile qui a percuté mon cœur, qui m'a transformé. Je crois que c'est pour ça que dans le verset 15, il s'empresse de définir c'est quoi l'Évangile. Wow! Comment un homme peut-il partir de blasphémateur, persécuteur, violent, ignorant et incrédule à quelqu'un qui a la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus? C'est l'Évangile qui fait ça. Et c'est pourquoi dans le verset 15, il s'empresse de bien définir le message de l'Évangile. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation. De quelle parole il parle? De la parole de l'Évangile qui lui a été confiée et qu'il a expérimenté lui-même sur le chemin de Damas. Alors voici, c'est une parole certaine, digne de toute acceptation. Ça, c'est une formulation que j'apprécie dans la Bible d'Arbi, digne de toute acceptation. N'est-ce pas que, comme chrétiens qui avons vécu la grâce de Dieu, on a envie même de supplier les hommes qui nous écoutent autour de nous, nos familles, nos enfants, nos parents, nos amis, nos voisins, nos collègues de travail, on veut les supplier d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, parce que la vie est complètement transformée par la suite. C'est ce que l'apôtre Paul vient d'exprimer, ce qu'il a vécu. Et puis il dit à Timothée, rappelle-toi Timothée que c'est digne de toute acceptation que ce message de l'Évangile, et il le définit comme étant centré autour de la personne de Jésus-Christ. C'est quoi? La parole certaine, pardon, est digne de toute acceptation, eh bien, c'est que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul va se qualifier de premier, mais arrêtons ici. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Voilà le message de l'Évangile. Jésus n'est pas venu pour améliorer nos conditions sociales. Il n'est pas venu nous donner l'abondance matérielle. Il n'est pas venu enlever toutes les épreuves et faire en sorte que la vie est belle. Il est venu sauver des pécheurs. Des pécheurs perdus, séparés de Dieu, parce qu'ils sont pécheurs. Et Paul, tout de suite, hein, réflexe, dont je suis le premier. Il n'était pas le premier. C'est Adam le premier. Adam et Ève, si on veut. Et puis, par la suite, il y en a eu plusieurs autres pécheurs. Il y en a eu nous aussi, hein, bien sûr. Mais quand Paul il dit « dont je suis le premier », c'est simplement une façon pour lui d'exprimer sa joie d'avoir été sauvé par l'Évangile. Il se voit comme « oh, c'était pour moi ça ». Il se l'approprie de façon personnelle. L'Évangile qui sauve, le message de Jésus qui vient sur la terre pour sauver, « ah, c'était pour moi ça ». Le premier, parce qu'il veut s'approprier tout de suite, personnellement, pour lui. C'est de la repentance, cette expression, dont je suis le premier. Il n'y a pas d'hésitation, hein? Vous savez, quand le message de l'Évangile m'a été présenté pour la toute première fois, j'avais jamais entendu parler de Jésus, jamais. Je ne savais même pas qui il était.
et j'ignorais qui j'étais aussi. Mais quand le chrétien, le compagnon de travail à cette époque, il m'a présenté l'Évangile, puis il m'a dit, « Gilles, est-ce que tu crois que tu es pécheur? » J'ai pas eu à lui dire, « Attends, on va prendre un petit café, je vais réfléchir à ça. » Puis d'ici 2-3 heures, je vais donner une réponse. Voilà. Je savais tout de suite, « Je suis un pécheur! » Ça, c'est Dieu qui met cette conviction au plus profond de nos cœurs. Dieu met la repentance aussi en nous. Il met la foi aussi en nous. Mais voilà, nous sommes appelés à croire, à nous repentir, à reconnaître que nous sommes pécheurs. Voyez l'apôtre Paul lever la main tout de suite, je suis le premier. Vous parlez de pécheurs? C'est moi le premier. Je crois que c'est assez évident avec ce qu'il vient de dire. Hein? Blasphémateur, persécuteur, etc. Je suis le premier. Et l'apôtre Paul, en mentionnant cela, démontre sa repentance. « Oh, Jésus est venu pour sauver des pécheurs. Jésus est venu dans le monde. Le Fils de Dieu qui est le Fils éternel de Dieu, qui a toujours existé, qui est dans le royaume de Dieu, qui est dans une communion excellente, parfaite, indescriptible avec son Père, dans l'accord avec son Père, dans ses plans éternels, inconcevables pour nous, incompréhensibles dans une très grande mesure. Il quitte tout cela pour venir dans l'incarnation, devenir un homme et donner sa vie à la croix pour nous racheter. C'est le message de l'Évangile. Et c'est ce que Paul définit ici. Et c'est digne de toute acceptation. Voilà le message dans lequel les gens d'aujourd'hui, en 2019, doivent croire. Que Jésus est venu dans le monde pour les sauver. Ils doivent, eux aussi, apprendre qu'ils sont pécheurs. Parce qu'il n'y a pas de salut sans cette partie de la bonne nouvelle. Ils doivent aussi se repentir et croire par la foi et recevoir ce salut gratuit que Dieu offre à celui qui se repent et se tourne vers lui. Et c'est le message que les gens doivent savoir. Je suis persuadé que l'apôtre Paul ici, il met au cœur du chapitre 1 ce texte-là pour que Timothée lui-même, en tant que ministre de l'Évangile, puisse ne jamais oublier quel est le fondement de son message. C'est l'Évangile qui transforme la vie. Et qu'est-ce que ça fait l'Évangile qui transforme la vie? Ça, c'est le troisième point. Il y a encore un « mais » qui débute le verset 16. Pourquoi? Parce que Paul, il vient de terminer le verset 15 en affirmant qu'il est un pécheur, et même le premier des pécheurs. Mais, c'est pas fini ainsi. Mais, encore une fois, pour une deuxième fois dans la courte section, « miséricorde m'a été faite ». Ça, c'est quelqu'un qui n'oublie pas où il était, ce qui est arrivé et où il en est aujourd'hui. Il n'oublie pas que s'il se tient maintenant debout là, comme apôtre et prédicateur de l'Évangile, c'est parce qu'il a reçu la miséricorde du Seigneur. Il le sait très bien. Pourquoi il lui a été fait miséricorde? Et l'apôtre Paul va maintenant se tourner vers ce qu'il est devenu après l'Évangile. Il est devenu un apôtre et un prédicateur de l'Évangile, et c'est ce qu'il va souligner dans le verset 16. « Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. » Paul est en train de dire encore « le premier ». Pas pour se mettre de l'avant, mais simplement pour exprimer sa joie de servir de modèle de ce que l'Évangile peut faire dans la vie de quelqu'un. Êtes-vous sauvé? Si oui, êtes-vous heureux? Êtes-vous joyeux de savoir que vous êtes des modèles de ce que l'Évangile peut faire dans la vie de quelqu'un? Je ne suis pas certain qu'on réalise toujours ça et qu'on garde à l'esprit cette vérité profonde et précieuse. En étant sauvé, nous sommes des modèles de ceux qui ont cru dans le message de l'Évangile et qui sont sauvés. Ça implique tellement de choses. Et l'apôtre Paul, il dit, « C'est l'occasion pour moi de montrer la patience du Seigneur. » Vous savez que dans le texte original, dans la langue dans laquelle Paul a écrit, c'est-à-dire le grec, il y a plusieurs mots qui traduisent le mot « patience » en français. Et le mot qu'il utilise ici est un mot qui parle particulièrement de patience envers des personnes. Une patience envers des événements, on va plutôt appeler ça endurance ou persévérance. Mais la patience envers des personnes dont Paul parle ici, c'est la patience et la bonté du Seigneur à l'égard des pécheurs. Puis il est en train de dire, « Oh, le Seigneur est patient parce que toute sa patience, il l'a manifestée envers moi. » C'est comme si Paul nous disait un peu comme de façon voilée comme ça, mais c'est comme s'il nous disait, « Mais il aurait pu me juger. Mais il aurait pu m'arrêter. Il aurait pu m'enlever la vie, tout simplement. Il est le Seigneur, après tout. Mon souffle, c'est pas moi qui le contrôle, c'est lui. Il aurait pu mettre fin à la vie d'un tel homme blasphémateur, persécuteur, outrageux, ignorant, incrédule. Il aurait pu mettre fin à tout ça. Mais il a plutôt manifesté sa grande patience envers moi pour que je puisse être un témoin vivant pour ceux qui croiront bientôt. » L'apôtre Paul, il est certain qu'il ne sera pas le seul croyant. Il y a des croyants qui viendront. Il y en a d'autres comme lui qui viendront à croire en Christ pour la vie éternelle. Et Paul dit, « Je suis si joyeux, si heureux d'être un tel exemple. » De la patience de Christ envers un pécheur, même un pécheur comme moi, le premier des pécheurs, eh bien maintenant je me réjouis de pouvoir servir d'exemple à tous ceux qui croiront par la suite. Par la bande, vous dites ça cette expression-là, par la bande, c'est comme de façon un peu contournée, il est en train de nous dire, en réalité, et ça nous parle à nous exactement de cette façon, qu'on est des modèles, nous aussi, maintenant, à ceux qui vont croire. On peut servir d'exemple et de modèle. Ce modèle se poursuit toujours dans tous ceux qui ont cru en Christ. Je suis un modèle de la patience du Seigneur envers moi, un pécheur, parce qu'il s'est révélé à moi, et à travers la foi et l'amour qui est en Christ Jésus, je suis sauvé. Et je veux que les gens le sachent. Je veux être un modèle. C'est ce que Paul veut nous dire ici. Comment ne pas terminer un tel témoignage autrement qu'en se tournant vers Dieu, en levant les yeux au ciel, puis dit « Seigneur, gloire à toi. » Gloire au Seigneur. C'est une doxologie, c'est un long mot qui veut dire « parole de gloire » qui éclate dans le cœur de l'apôtre Paul au verset 17 parce que Dieu l'a sauvé, parce qu'il est passé de ce pécheur perdu à cet enfant de Dieu, objet de la miséricorde du Seigneur. Or qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Quelle conclusion remarquable. L'honneur dont il est question dans ce passage ici, l'honneur et la gloire. L'honneur, c'est toute l'estime qu'on doit avoir de Dieu, un si grand Dieu, si bon. Et la gloire, c'est de remarquer et de faire remarquer aux autres la grandeur de Dieu en exprimant ainsi une parole de reconnaissance au Seigneur. Eh bien, que ce soit au roi des siècles. Pourquoi roi des siècles? Pourquoi il n'a pas dit au Père? Pourquoi il n'a pas dit à Dieu simplement? Il y aurait tellement de façons de s'adresser à Dieu dans un contexte comme celui-là. Pourquoi roi? Parce que ça évoque une réalité. C'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui est souverain dans tout ce qu'il fait. Et Paul se sent devant l'immensité de ce grand Dieu-là, comme un sujet d'un très grand roi. Hey, il est parti d'un religieux dans l'ignorance et l'égarement total à un enfant de Dieu sujet du grand roi. Quelle transformation! Il n'y a que l'Évangile qui peut faire ça.
Ce Dieu est incorruptible, immortel aussi, c'est le même terme. Ça veut dire qu'il ne change pas, il demeure pour toujours. Il est invisible parce qu'on peut le saisir seulement que par la foi. Et il est un seul Dieu, un Dieu unique, le Dieu d'Israël, qui a envoyé son Fils Jésus pour sauver les pécheurs. C'est à lui, Paul, dit-il, qu'il veut proclamer la gloire et l'honneur pour toujours, au siècle des siècles, est une façon de dire que ce soit ainsi pour tout le temps, pour toujours, pour toute l'éternité. À lui soit la gloire. Quelle belle façon de terminer un témoignage d'une vie transformée par l'Évangile. Nous avons vu Paul avant, nous avons vu Paul pendant, nous avons vu Paul après. Et est-ce que nous nous sommes vus à travers son témoignage? Est-ce que nous nous sommes rappelés que pour nous aussi, il y a un avant, un pendant et un après de l'Évangile? Et est-ce que pour nous aussi, nous nous sommes appropriés ces paroles et dire, je veux servir aussi d'exemple, parce que je puis le faire. Tout comme Paul, j'ai été gracié par le Seigneur. Tout comme Paul, miséricorde m'a été faite et je peux maintenant témoigner de cela à ceux qui m'entourent. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience et à réaliser que nos vies ont été transformées par l'Évangile et que tout repose dans notre vie au cœur de cette doctrine. Tout repose là, sur une personne, le Seigneur Jésus. Ah, pour Paul, c'était tellement glorieux, important, que c'est pourquoi dans le verset 18, sans que nous allions dans l'exposition détaillée, mais « Je te confie cette ordonnance, cet ordre, selon Timothée, plutôt mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été faites, combat le bon combat. » C'était quoi dans le contexte le bon combat? Prêche ce message. Prêche l'Évangile. Prêche la foi en Jésus-Christ. Paul, à la fin de sa vie, il réalise tout ce que Dieu a fait, mais il va terminer sa vie, il va disparaître. Il veut que d'autres poursuivent, et entre autres, à Timothée, il lui dit « Continue ». C'est le bon combat. Plus tard, Paul va finir sa vie en disant, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, c'était la couronne qui l'attendait en présence du Seigneur. Bien, en attendant ce jour que lui seul connaît pour chacun de nous, puissions-nous être des exemples vivants de vie transformée par le message de l'Évangile. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ce texte que Paul a rédigé, ce témoignage extraordinaire de ce que l'Évangile peut faire dans une vie. Mais merci Seigneur Jésus, parce que sans toi et sans ton sacrifice, il n'y aurait pas d'Évangile, il n'y aurait pas de vie transformée, il n'y aurait aucune espérance pour personne et on serait perdu. Merci Seigneur Jésus de nous avoir fait réaliser, comprendre ce que tu as fait à la croix. Merci pour la foi et l'amour que nous trouvons en toi et que nous puissions être maintenant des témoins efficaces entre témoins, entre tes mains, pour toucher le cœur des gens qui nous entourent. Oui, Seigneur, sauve autour de nous à travers notre témoignage. Nous te remettons cette requête qui nous tient tellement à cœur afin que tu sois glorifié, honoré en toutes choses, entre tes mains. Et c'est pourquoi nous prions ainsi en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup.